Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
MMA Business Entreprise.
Je suis avec Aurélie, chef d'entreprise, qui me dit qu'entre urgence du quotidien et responsabilité, c'est pas toujours facile.
Non, je suis très bien accompagnée. J'ai mon agent MMA qui me connaît bien. Il s'occupe de ma protection pro et perso. Il m'a même fait bénéficier de 50% sur mon assurance dirigeant. Zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub.
Jusqu'au 25 novembre 2023, moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence.
Sud Radio, l'invité politique. Jean-Jacques Bourdin.
Il est 8h34, c'est un plaisir de vous retrouver tous les matins, vous le savez, de 8h30 à 9h, nous sommes ensemble avec notre invité politique. Et ensuite, à partir de 9h, 0826 300 300, c'est votre numéro, le numéro où vous appelez et vous réagissez évidemment sur tous les sujets d'actualité. Ce matin, notre invité Daniel Obono, qui est député LFI de Paris. Daniel Obono, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le terrorisme a tué. Hier encore, à Bruxelles, deux Suédois tués parce qu'ils sont Suédois et parce qu'en Suède, notamment, des Corans ont été brûlés récemment. Aussi, il l'a dit, il a été interpellé, il aurait été interpellé, il l'a dit dans une vidéo, aussi parce qu'il pensait aux enfants palestiniens. Ce matin, Daniel Obono, êtes-vous en colère ou résigné ?
Moi, je suis soulagée qu'effectivement l'assaillant, le meurtrier, était appréhendé. Il semble que ce soit le cas.
Oui. L'Union nationale des étudiants de France a décidé de prendre en main la question des toilettes genrées. Ils ont lancé une pétition afin d'obtenir la fin des toilettes genrées au sein de l'établissement. La pétition avait déjà obtenu plus de 160 signatures. La fin des toilettes genrées, qu'est-ce que c'est, juge Gilverdès, pour le dire ? C'est fini, il n'y a plus de toilettes.
Il n'y a plus hommes, femmes.
Même toilette pour tout le monde.
Bah, même toilette pour tout le monde.
Et bah, écoute, tout le monde fait la file d'attente pour les mêmes toilettes.
Déjà qu'il y avait du monde aux toilettes.
Déjà qu'il y avait du monde aux toilettes, moi j'ai un.
Alors j'ai une question directe, Daniel Obono. N'était-il pas dangereux, d'affirmer et de répéter que les autorités françaises s'acharnent contre les musulmans ?
C'est un tout autre débat, excusez-moi. Pour quel
ça
quel
n'a
est
aucun
le lien
rapport. Ça n'a aucun rapport.
Lien.
Aucun rapport.
Quel est le lien.
Vous faites... Non, je vous pose la question.
Non,
vous ne faites
non.
aucun rapport.
Je pense que...
Pourquoi on veut tout déconstruire alors que les choses ont été construites pour une raison ? Historiquement, les toilettes hommes et femmes, c'était créé d'abord pour protéger les femmes, pour pas qu'elles soient toutes avec des hommes dans des endroits privés. Ouais. Ensuite, on voit bien que quand on se retrouve un peu comme dans les vestiaires, quand on se retrouve dans un lieu un peu intime avec une personne du sexe opposé, c'est gênant.
Ah, bien sûr.
Et là, pour satisfaire une ultra minorité de gens, on sait même pas qui sont ces gens.
La langue française est un ciment. C'est un ciment. Et elle explique très bien notre rapport, tout à la fois, à la nation et à la République. Elle est ce qui nous forge. Choisissez-la, adoptez-la, vous en êtes.
C'est
vous
jeunes,
qui parlez d'islamophobie décomplexée, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez dit.
Mais
après,
j'ai dû le dire
après. À certains. Et vous le redites ce matin.
Dans, en quel... En
ben,
quel
à propos de l'interdiction de l'abaya à l'école.
Oui, je pense que c'est...
Vous avez parlé d'islamophobie décomplexée.
Je pense que c'est une allusion discriminatoire.
Non, moi je dis qu'il faut laisser comme c'est. Après, les garçons chez les garçons, les femmes chez les femmes.
La langue française nous rassemble dans notre unité et notre diversité.
Il n'y a que dans les événements sportifs. Dans les événements sportifs, comme dans les stades et tout, les concerts, je vois des files d'attente interminables pour les femmes. Peut-être qu'on pourrait dire, là, dans ces événements-là, peut-être comme il y a beaucoup de monde. Mais sinon, il faut laisser comme ça, les hommes chez les hommes, les femmes chez les femmes.
Est-ce que dire cela n'encourage pas...
Non, je ne le crois pas.
N'encourage
je
pas...
Je ne crois pas, monsieur Bourdin.
...à la colère, et plus que la colère, à la réaction, et plus qu'à la réaction, à des actes criminels.
À travers les voyelles ouvertes des Parisiens, les inflexions chantantes des Outre-mer, les A du Nord qui s'arrondissent en haut, les R rocailleux de l'Est, les E muets du Sud qui se font sonores et solaires.
Moi, je n'en peux plus parce que là, à la limite, faire des toilettes hommes-femmes, pourquoi pas. Mais aux États-Unis, maintenant, on appelle les femmes des non-hommes. Watch me.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance ? Je cherche l'explication.
l'accent immortel de la langue française, sa vibration la plus intime, c'est sans doute la révolte de la pensée face à l'arbitraire, l'effort d'une sensibilité vers l'idéal.
Il y a des problèmes, effectivement, comme dit Guillaume, homme-femme, mais il y a des problèmes d'hygiène aussi. Vous savez bien que les chiottes, en général, chez les mecs, ne sont pas aussi propres que chez les femmes.
Et d'ailleurs, tous les grands discours de décolonisation n'ont-ils pas été pensés, écrits et dits en français ?
C'est un mouvement de résistance là-bas. Est-ce que c'est un mouvement de résistance?
Moi, je comprends pas l'histoire des non-genrés, en fait. On a tous un genre. Soit on est une femme, soit on est un homme.
J'ai envie de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance?
Donc, il y a des gens qui ont rien aussi.
Non, c'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes.
C'est un mouvement de résistance.
Il faut permettre à cette langue de vivre, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps.
C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation.
Donc c'est un mouvement de résistance.
Oui, et...
Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez.
Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. La France est une œuvre née de volonté, volonté plurielle, contrastée, contraire parfois, bouillonnant dans le grand creuset tricolore. On y lit tous ces tiraillements. Ceux d'un peuple à la forge de sa nation. L'unité, donc, c'est important la langue.
La dernière fois, c'était septembre, bah oui. Octobre, novembre, on va se mettre. Voilà. 24 septembre, 24 novembre. Tout le monde voit, c'est bon là. À chaque fois que je termine une tentative, très très vite, je commence un peu à réfléchir à la suivante. À me dire, bon, ben, ça va être quoi les prochaines grandes tendances dont je vais pouvoir commencer à parler, les grandes lignes scénaristiques, les personnages qui vont émerger, les flops, les tops, les grands succès à venir, qu'est-ce qu'il va y avoir comme proposition d'écriture. La dernière fois, je me souviens, fin septembre, je me disais, ok, on sort du gros blockbuster L'été de l'enfer, épisode 2. On venait de faire la rentrée avec le suspense paranoïaque, vous vous rappelez l'invasion des abayas. J'ai dit ok, octobre-novembre, ça va être plus cool. Après deux cycles d'intensité, comme ça, hop, on calme un petit peu. Avec quand même un succès quand même pour nourrir un petit peu, attiser l'intérêt du public. Un gros succès, ça allait être les punaises de lit. Les punaises de lit, jolie proposition. Modeste, vous savez, succès modeste, proposition un peu bouche-trou même, j'oserais dire, c'est-à-dire un peu thriller horrifique, un peu film épidémique, inspiré bien sûr du très 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 gros carton des années 20, inspiré du Covid, évidemment. Et comme ça arrive souvent au cinéma, on a ça, vous allez avoir un grand succès qui va être suivi de plein de petites espèces de répliques, si vous voulez, qui explorent les thématiques, qui surfent un peu sur la vague, et qui des fois... ont des intérêts, enfin des trouvailles plus modestes, mais très intéressantes. Après Alien, on a eu Critters, après Amélie Poulain, on a eu Jeux d'enfants, par exemple, qui sont des productions qui, à chacune, pris une petite place dans le cœur des spectatrices, spectateurs qui ont grandi avec, par exemple. Et donc après le Covid, voilà, on a les punaises de lit. Qui reprennent hein, la structure narrative du Covid, vous avez tous et toutes reconnu, c'est-à-dire première partie, des hommes et des femmes crient dans le désert pour alerter sur un danger imminent. Les gens disent « Waouh, ça va, c'est bon, c'est une grippette, waouh, ça va, c'est bon, ça gratte un peu, ça va. » Le danger se précise, la paranoïa commence à gagner la population, péril épidémique, etc. On en était à peu près là, on avait déjà eu des jolies scènes, déjà assez cultes, hein, vous vous rappelez, la scène qui posait la question de l'origine du péril, donc... Pour le Covid, l'origine était chinoise, mais là, on ne savait pas trop. Et donc, on a eu le personnage du journaliste Pascal Pro. Peut-être dire, ah, je ne fais que poser la question, je ne sais pas, mais ne pourrait-on pas faire un lien entre la prolifération de ces punaises de lit et la présence massive de migrants à Lampedusa en Italie? Je ne sais pas, je ne fais que poser la question. Je ne dis pas que ces gens-là sont plus sales, mais ils se lèvent sans doute moins que les autres. Ce n'est pas leur faute, je ne fais que poser la question. Sur le plan narratif, ça a beaucoup d'intérêt, cette séquence-là. Par contre, c'est vraiment intéressant sur le plan thématique, déjà et d'une, pour un petit peu préciser le personnage de Pascal Pro, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas déjà. Et sinon, vraiment thématiquement, c'est typique de ces petites productions un peu bis, un peu Z. On sent que ça puise vraiment dans l'air du temps. Ce qui fait que les critiques, les historiens de l'actualité, dans 50 ans, 60 ans, qui étudieront ce qui s'est produit jadis, regarderont cette scène-là en disant 2023. Autre scène très intéressante, cette fameuse scène où le personnage de la députée LFI Mathilde Panot brandit une fiole de punaise de lit en pleine Assemblée nationale. Alors d'aucuns auront trouvé ça un peu grandiloquent, cette scène. Faut voir en fait que c'est surtout une citation d'une autre scène culte. Hein, vous vous rappelez, dans la saison 1 des aventures de George W. Bush à la Maison Blanche, le secrétaire d'État à la Défense, Colin Powell, qui brandit une mystérieuse fiole remplie d'une poudre blanche, disant « Voici l'anthrax produit par les laboratoires de Saddam Hussein et la preuve inéluctable qu'il faut aller faire la guerre à l'Irak. » Donc la citation, évidemment, preuve inéluctable qu'il faut aller faire la guerre aux punaises de lit. Autre intérêt esthétique et narratif des punaises de lit, enfin de cette fiole, c'est qu'elle met l'accent sur la principale trouvaille formelle des punaises de lit par rapport au Covid, c'est l'idée qu'a eu la prod de matérialiser la menace. D'accord ? Le Covid jouait sur la menace invisible, on sait pas, qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu, vous savez ? Là, on est plus effectivement, la prod s'est dit, on va rendre ça plus tangible, plus concret. Donc très très gros travail des équipes d'effets spéciaux qui ont réussi à produire en quantité industrielle merveille de nanotechnologie au service de l'animatronique, des espèces de petits pépins de pommes aplatis avec des petites pattes pigouilles, tout en titane, rempli de poils à gratter, vous voyez, qui a permis de renouveler très avantageusement l'expérience immersive de la composition. Parce qu'on se rappelle hein, que la principale trouvaille en termes de mise en scène du Covid, c'était la dimension immersive. Le confinement, quand même. Très novateur, très intéressant. En plus, un côté un peu interactif, ludique, un côté un peu escape game à l'envers. Sauf que, bon, au bout de 3 jours, 4 jours, on avait fait le tour de la proposition. Ils avaient du mal à se renouveler à l'intérieur. Là, ils se sont dit, bon, bah, on a moins d'argent. C'est une production franco-française, donc ça va pas toucher tout le monde. Mais quand même, les gens qui auront la chance de bénéficier de l'expérience interactive auront quelque chose de plus riche, de plus varié. Et là, c'est plutôt pensé, si vous voulez, comme une espèce de Pokémon Go à l'envers. C'est-à-dire que vous trouvez une punaise, la partie commence. Le but du jeu, c'est pas attraper les tous, c'est écraser les toutes. D'accord ? Le jeu n'est pas fini tant que ça gratte. Et vous commencez la partie avec 2 jauges. Une jauge de santé mentale, une jauge de précarité. Et au fur et à mesure que la partie avance, votre jauge de santé mentale se vide, votre jauge de précarité se remplit, etc. etc. Et vous avez une totale liberté d'action. Là, un peu comme dans Minecraft, si vous voulez, pour vous débarrasser des punaises, sachant que vous avez juste connaissance des principales caractéristiques du péril, c'est-à-dire, c'est des petits pépins de pommes aplatis de 4 à 7 mm de long, quasiment impossible à écraser, c'est du titane, je vous le rappelle, qui ne résiste ni au feu, c'est important, ni au gel, et dont les prédateurs naturels sont le scutigère véloce et le cafard. Voilà. Partant de là, votre seule limite est votre imagination. Vous voyez. Donc vous pouvez décider de partir en quête de scutigères véloces ou de cafards, de les lâcher dans votre appartement. Donc là, c'est pour les joueurs et joueuses qui sont vraiment, vraiment très joueurs et joueuses, parce que si vous terminez la partie grâce à ça, ça ouvre un deuxième jeu. Vous pouvez vous débarrasser des scutigères et des cafards. Vous pouvez aussi J'ai une copine qui a eu cette idée, par exemple, d'acheter un congélateur pour y congeler tous ses vêtements. Voilà, proposition plus poétique, plus hasardeuse. Vous pouvez aussi très bien, il y en a qui ont des idées de cramer tous leurs vêtements et d'aller vivre dans les bois, jusqu'en octobre, ça restait possible. Là, maintenant, là. Et sinon, si vous êtes un peu impatiente, vous pouvez aussi faire appel à une société de désinsectisation qui viendra avec ses insecticides, avec ses chiens, renifleurs, etc. Ça, c'est pour les joueurs, en effet, qui sont un petit peu lassés par le jeu, et surtout pour les joueurs qui ont ce qu'on appelle de l'argent. Tout le monde voit l'argent ou pas? Je précise, l'argent dans l'actualité interactive, c'est ce qu'on appelle un power-up. D'accord? Donc power-up pour les gens qui font pas de jeux vidéo, power-up en langage vidéoludique, c'est ces objets que votre personnage trouve sur son chemin et qui le rendent plus puissant. Super Mario Bros, ça va être l'étoile qui rend invincible, le costume de grenouille qui permet de respirer sous l'eau, Zelda ça va être le grappin qui permet de passer au-dessus des précipices. Dans l'actualité, c'est l'argent qui vous permet d'acheter des voitures pour aller plus vite, des vêtements pour être plus beaux, de la drogue pour être plus heureux, ou alors de faire appel à des sociétés de désinsectisation pour vous débarrasser des punaises de lit. Le fait ou pas d'avoir un personnage qui dispose d'argent change vraiment la difficulté du jeu. C'est même le principal reproche qu'on peut faire à cette production des punaises de lit en particulier, mais en général de l'actualité interactive, c'est le problème de l'équilibrage de la difficulté. Hein, très très clairement, c'est-à-dire que vous savez toutes et tous hein, qu'on choisit pas son personnage en début de partie. C'est le jeu qui choisit, c'est les algorithmes hein, qui vont dire bah voilà, toi tu vas naître, mon personnage va naître, fils ou fille d'ouvrier malgache clandestin dans le bâtiment, ou alors fille d'un grand PDG de l'industrie pharmaceutique, et vraiment, ça change radicalement l'expérience joueur. Voilà. Donc régulièrement, il y a des joueuses qui râlent un petit peu, oui, pour un peu rééquilibrer, donc régulièrement, les développeuses proposent des mises à jour. La mise à jour la plus connue, c'est la grande mise à jour de 1789. Après, il y a d'autres mises à jour, démocratie, suffrage universel direct, ça marche plus ou moins. Au XXe siècle, la grande mise à jour, ça a été le patch méritocratie, qui faisait apparaître des petits passages secrets partout sur la carte, qu'on appelle ascenseur social. Donc si vous empruntiez l'ascenseur social, paf, vous pouviez rentrer dans une espèce de grande salle au trésor. C'est hyper bugué. C'est-à-dire que l'ascenseur apparaît, disparaît n'importe quand, une fois sur deux, la porte est bloquée, il faut y aller au pied de fiche. Certes, vous allez dans la salle au trésor, mais deux fois sur trois, vous tombez dans les requins, dans les coquillages, dans la lave. Voilà. On sent que les développeurs sont pas très pressés d'améliorer ça, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, de toute façon, nous, on continuera à jouer. Voilà, c'est le principal reproche que j'ai à faire à cette production, mais comme j'ai dit, c'est pas un reproche spécifiquement dirigé vers les punaises de lit, c'est vraiment tout le problème de l'actualité interactive qui est un peu déséquilibré. Bon, voilà, mais à part ça, vraiment, moi, c'est une production que j'aime bien. Voilà, qui est parfaite justement pour ces phases un petit peu creuses, un mini blockbuster à intensité moyenne dont on peut profiter tranquillement en se laissant bercer par le rythme nonchalant des 49.3, voyez, qui sont, vous avez remarqué, les 49.3 qui ne sont plus du tout à des éléments narratifs maintenant, qui sont devenus des éléments purement rythmiques, qui sont là, vous remarquez pas, voyez. Et c'est aussi l'occasion pour s'intéresser à des productions qu'on ne serait pas allé voir autrement. Par exemple, tiens, bah, cette semaine au cinéma, il n'y a pas de Marvel, il n'y a pas de Star Wars, il n'y a pas la dernière Palme d'Or de Justine Triet. Je vais peut-être en profiter pour enfin aller m'intéresser à ce petit programme de court-métrage luxembourgeois dont on m'a tant parlé. Il paraît que souffle sur cette jeune création un vent de fraîcheur tout à fait salutaire et vivifiant. Allons-y. Là, c'est pareil, je me suis dit, je vais m'intéresser à la production d'Azerbaïdjan. Depuis le temps qu'on me parle de ces histoires de Haut-Karabakh, vraiment, il serait temps que je m'y penche un petit peu. Mais je me disais, je sais pas, barrière de la langue, azerbaïdjanais, c'est compliqué à dire. Mais quand on s'y penche, on se rend compte déjà qu'on peut dire Haut-Karabakh, 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 ils s'en foutent. On peut dire azéri à la place d'azerbaïdjanais, donc ça prouve bien qu'ils ont quand même pensé à l'exportation. Et quand on s'y penche, on voit que c'est assez facile à comprendre, en fait. C'est-à-dire que c'est un arc narratif très joliment troussé, qui remonte aux années 1920 à peu près, donc ça a un siècle tout de même. Et c'est l'histoire d'une région qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est enclavée dans le pays appelé l'Azerbaïdjan, et qui est principalement peuplée, le Haut-Karabakh, de membres de la population arménienne. C'est quasiment que des Arméniens qui réclament très très vite leur indépendance, leur autonomie, voire leur rattachement tout simplement à l'Arménie. Donc tout ça sur fond d'Union soviétique, de guerre froide, d'effondrement du mur, etc., etc., avec tout ce que ça implique de répression par l'État, de création d'un État autonome plus ou moins reconnu par la communauté internationale, de guerre civile ponctuelle, d'explosion de violence, qui fait que depuis les années 80, on a eu 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 40 000, 50 000 morts, etc., du côté des civils, particulièrement du côté du Haut-Karabakh. Vous voyez, c'est de bonne facture. Ça n'a rien à envier à l'autre grosse production qui cartonne dans la région du même genre, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, qui fonctionne mieux auprès du grand public parce qu'ils n'ont pas le même budget marketing, clairement. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage, il y a des très jolies choses. Avec leurs modestes moyens, par exemple, voilà, ce qui est super intéressant, c'est notamment tout le travail des scénaristes depuis à peu près un an. Voilà. Fin 2022, le gouvernement azéri impose un blocus sur la région de Haut-Karabakh avec comme objectif à peu près affiché d'en affamer la population. Voilà. Septembre 2023, le gouvernement azéri envoie son armée dans le Haut-Karabakh avec comme objectif d'éradiquer définitivement toutes les forces autonomistes et de laisser comme possibilité aux habitants arméniens de Haut-Karabakh le choix, grosso modo, entre mourir de faim sous occupation militaire et partir. Mourir de faim, ça fait 7 mois qu'ils testent, ils commencent à faire le tour de la proposition, ils disent bon voilà, effectivement, peut-être qu'on va choisir l'alternative, l'autre possibilité. C'est ainsi que le gouvernement d'Azerbaïdjan est parvenu en quelques semaines à totalement nettoyer le territoire du Haut-Karabakh de sa population arménienne, puisque c'est à peu près 100-120 000 habitants du Haut-Karabakh qui sont partis d'un coup, laissant le territoire à peu près vide. Formidable réinterprétation du motif du génocide. Génocide, tout le monde voit ou pas? C'est une des plus vieilles figures narratives du récit d'actualité. C'est-à-dire que de tout temps, en tout lieu, les scénaristes ont exploré le motif du génocide. Le principe du génocide, structurellement, c'est l'histoire d'un groupe humain qui décide de mettre fin à un autre groupe humain. Parfait si vous voulez créer un personnage de méchant. Par exemple, là, pour le spectateur, il n'y aura pas d'ambiguïté, ok. Et même, vous pourrez mettre des subtilités, lui imaginer une enfance malheureuse, une passion contrariée pour la peinture. Le spectateur se dira, ouais, non, quand même, c'est chaud, c'est un méchant, vous voyez. Après, il y a plusieurs modalités de génocide. Le génocide de base, celui qui marche le mieux auprès du grand public, c'est le génocide par massacre. Par meurtre de masse, ça marche toujours. Après, ils le font pas trop souvent parce que c'est un budget en figurant démentiel. Mais régulièrement, il y a quand même des scénaristes qui explorent d'autres façons de renouveler le motif, quoi. Des génocides un peu moins grand public, mais un peu plus intéressants pour la critique. Ils disent, ah oui, effectivement, là, il y a un truc. Par exemple, il y a une jolie proposition des scénaristes canadiens méconnus, très connu de la critique, mais pas beaucoup du grand public, qui a travaillé pendant à peu près un bon siècle, de 1872 à 1996, sur le génocide culturel. Qu'est-ce que c'est le génocide culturel? Le principe, c'est un groupe humain qui veut mettre fin à un autre groupe humain, et pour ce faire, enlève les enfants du deuxième groupe humain. Donc là, en l'occurrence, le groupe humain Canada veut mettre fin au groupe humain autochtones nord-américains, enlèvent leurs enfants pour les placer dans des pensionnats, des institutions, les éduquer en bons petits chrétiens blancs afin de, deux points, ouvrez les guillemets, tuer l'Indien dans l'enfant. Et ainsi parvenir en 3-4 générations à détruire un peuple en annihilant sa culture. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est un motif intéressant. Et il y a aussi l'Azerbaïdjan, du coup, le principe du l'Azerbaïdjan, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est on blocus une région. On augmente la pression, on augmente la pression, on augmente la pression. On envoie l'armée, on ouvre la bombe et... Voilà. La population ciblée opère elle-même sa propre épuration ethnique par forte incitation émigratoire. Ouais. Vous sentez le truc que ça fait là? Ça, c'est preuve que c'est une réussite esthétique. Hein. Quand ça crée un effet sur le physique du spectateur, de la spectatrice, c'est quoi ? Ils tiennent un truc et voilà. Donc, si on dit cette porte qui s'ouvre dans le cerveau, là, la raison qui tente de s'en échapper, qu'on empêche de partir comme ça, les mots qui manquent pour nommer ce qui vient de se passer, comme un tour de magie, si vous voulez, comment il a fait, il n'y a pas de massacre, et pourtant l'extermination, il est vraiment trop fort, le droit international en PLS, le précipice de désespoir qui s'ouvre comme ça, sous les jambes, sous les pieds. C'est une très très jolie proposition. Voilà. Qui n'a pas rencontré, selon moi, le succès public qu'elle méritait. Voilà. Particulièrement parce que, pour des problèmes de calendrier, en fait, elle a été quand même très largement éclipsée par une autre proposition qui est survenue à peu près au même moment. Proposition dont je m'apprête à parler maintenant. Vous sentez que je renacle un peu, que je ne trépigne pas d'impatience, que je traîne quelque peu des pieds, que je procrastine, que je tempère et temporise, que si ça ne tenait qu'à moi, cette tentative se concentrerait sur cette très jolie période allant du 24 septembre au 6 octobre, par exemple. Que je préférerais mille fois continuer à disserter des heures et des heures sur la poétique du génocide plutôt que de me mettre à étudier la structuration dramaturgique, la logique de production, le travail des cascadeurs, des cascadeuses, des acteurs, des actrices, des maquilleurs, des maquilleuses, des techniciens et techniciennes en effets spéciaux qui ont travaillé sur cet arc narratif qui commence là, donc, 7 octobre 2023, 6h30. Frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien, lance une série d'attaques surprises coordonnées sur le territoire israélien. Tandis que près de 5000 roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza, 2900 combattants ou militants ou soldats ou terroristes du Hamas pénètrent sur le territoire israélien en camions, camionnettes, motos, bulldozers, vedettes rapides et même parapentes. Armés et masqués, vêtus de treillis noirs, ils sèment mort et désolation, incendient maisons et véhicules, assassinent civils, hommes, femmes et enfants, prennent autant d'otages qu'ils le peuvent dans la ville frontalière de Sderot, dans le moshav de Netiv Ahasara, les kibbutz de Be'eri et Nirotz, dans une dizaine d'autres petites communautés frontalières, et dans un festival de musique électro organisé en plein air, à côté du kibbutz de Re'im, près de la frontière, où près de 4000 jeunes Israéliens s'étaient retrouvés pour faire la fête. En quelques heures, le Hamas aura assassiné plus de 1200 Israéliens, dont 1033 civils, à quoi s'ajoutent 100 à 200 personnes disparues et 200 otages. Des rumeurs courent selon lesquelles les agresseurs se seraient livrés à des actes de barbarie et de torture innommables. On parle de viols, de bébés décapités ou retrouvés dans des fours, de femmes enceintes éventrées, de parents massacrés sous les yeux de leurs enfants. La population israélienne et la communauté internationale sont sous le choc. Israël annonce une riposte immédiate visant à éradiquer une fois pour toutes le Hamas et à récupérer ses otages. C'est ainsi que commence la guerre Israël-Hamas. Le 9 octobre, Yoav Gallant, ministre de la Défense d'Israël, annonce un siège complet de la bande de Gaza avec suppression de l'approvisionnement en nourriture, en eau potable et en électricité, déclarant « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » En 6 jours, ce sont 6000 bombes qu'Israël largue sur le territoire gazaoui, plus de bombes que ce que les États-Unis auront largué en un an en Afghanistan après le 11 septembre. Tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou refuse toute trêve humanitaire, tout cessez-le-feu, justifie son action en évoquant la prophétie d'Isaïe « Nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres, et la lumière triomphera des ténèbres », Le ministre en charge du patrimoine, Amichai Eliyahu, s'extasie sur les paysages dévastés par les bombes, déclare que le nord de Gaza est plus beau que jamais, avant d'admettre devant la presse qu'il n'est pas exclu d'y larguer une bombe nucléaire. Et un collectif de médecins israéliens publie une lettre ouverte appelant à l'utilisation de tous les moyens nécessaires, y compris le bombardement des hôpitaux gazaouis, pour éliminer les combattants du Hamas. On parle de militants du Hamas cachés dans des tunnels souterrains, qui établissent leurs quartiers généraux et retiennent leurs otages sous des hôpitaux, utilisant les civils comme boucliers humains. On parle aussi de villes dévastées, d'écoles en ruine, de plus de 12 000 civils morts sous les bombes. On parle de services pédiatriques contraints par la pénurie d'électricité de débrancher leurs couveuses et d'emmailloter comme ils le peuvent des bébés prématurés, de les installer côte à côte, le plus près possible les uns des autres, pour éviter qu'ils ne meurent de froid, ce qui finit fatalement par arriver. Ça change du réchauffement climatique. Après, je sais pas trop ce que je peux en dire d'autre, en vrai. Bah, à part que en termes de production, c'est bien. Hein. C'est vraiment wow, gros boulot, les gars. Grosse réussite en termes de production. C'est même limite pas sympa pour l'Azerbaïdjan. Vous voyez, avec leurs petits moyens, ont réussi à produire un génocide un peu original. Eux, d'un coup, blam, un massacre avec attention génocidaire, auquel on riposte par une espèce de génocide collatéral semi-involontaire, selon les critiques. Toutes les propositions d'écriture vont jusqu'au bout. Voilà, il n'y a pas de promesses non tenues, quoi. On y va, il y a des trouvailles dans tous les sens en termes de mise en scène. Même les attaquants parapentes du Hamas, ça pourrait être ridicule, mais non, en fait. Ça ajoute au côté complètement hallucinatoire de l'histoire. C'est admirablement premier degré. Il n'y a pas une pointe d'humour. Ils réussissent à maintenir une espèce d'indécidabilité entre les deux camps, grosso modo. C'est qui les gentils, c'est qui les méchants, entre le Hamas et l'État d'Israël, on ne saurait pas dire. Tout ce qu'on sait, effectivement, c'est qui sont les victimes d'un côté comme de l'autre. C'est absolument pas manichéen du tout. Non, vraiment, très objectivement, je pense qu'on est en train d'assister à la diffusion d'une des plus grandes œuvres de l'actualité du XXIe siècle, clairement. Bien. Au même titre que le Covid, au même titre que le 11 septembre 2001, au même titre au cinéma que Citizen Kane ou que Matrix, les Beatles, Virginia Woolf, non vraiment. Enfin, c'est même tellement bien que parfois on en vient à oublier que tout ça c'est pour de faux, quoi. Enfin, je veux dire l'ACPAM, au même titre que tout le reste de l'actualité, j'entends. C'est-à-dire que on a tendance à oublier par moments que, bah, vu que c'est un récit immersif, que c'est une production énorme, qu'on est baigné là-dedans et tout ça, on a vraiment l'impression que tout ce qui se passe dans l'actualité, par moment, on a vraiment l'impression que c'est pour de vrai, et on a du mal à dissocier le réel de la fiction, etc. Si jamais ça vous arrive de ne pas réussir à dissocier, moi j'ai deux mots à vous dire, je vous les donne, c'est cadeau, Donald Trump. Dites, dès que vous doutez, vous dites Donald Trump et paf, ah oui, c'est une espèce de safe word. Alors, pourquoi, heureusement que c'est pour de faux, bah déjà parce que c'est horrible, parce que grosso modo, ce truc-là, c'est quand même Game of Thrones, et moi, j'adore Game of Thrones, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de vivre à Winterfell, donc j'ai pas envie, voilà. Et deuxième raison, là pour le coup plus égoïste, c'est à supposer que tout soit vraiment du réel, du vrai monde réel, de la réalité véritable, qu'est-ce que ça fait de moi ? Parce que, là, moi, je suis quoi ? Je suis un conférencier, exégète, critique, au sens universitaire du terme, au même titre qu'il y a des critiques de cinéma, hein, qui vont étudier l'esthétique de tel auteur, le montage, les logiques de production, etc. Pareil en littérature, ben moi, je fais pareil dans l'actualité, voilà, les acteurs, les actrices, la scénarisation, les dialoguistes, les dimensions de production, les dimensions techniques, les dimensions financières, évidemment, la dimension émotionnelle, bien sûr, mais je m'attache assez peu à la question morale, qui est moins intéressante sur le plan esthétique, la question morale. Un critique de cinéma qui va vous dire « j'adore Voldemort », il dit pas ça pour vous dire « Voldemort a l'air d'être trop cool ». Il dit ça parce qu'il trouve que dans Harry Potter, Voldemort est un méchant tout à fait convaincant, bien écrit, bien construit, mystérieux, original, etc. Moi, au même titre, j'adore Benjamin Netanyahu. Parce que ce personnage froid et implacable à la Vladimir Poutine, mais avec un physique plus banal que Vladimir Poutine, ce qui le rend paradoxalement bien plus inquiétant, entouré de son aréopage de ministres, là, tous invraisemblables, entre Yoav Gallant, ministre de la Défense, qui combat les animaux humains, Amichai Eliyahu, qui veut larguer la bombe sur Gaza, Itamar Ben-Gvir, qui distribue des armes aux Israéliens qui veulent s'installer illégalement en Cisjordanie pour les aider à se défendre contre les Palestiniens qui défendent leurs terres. Enfin, voilà, c'est too much. On est d'accord que c'est vraiment un aréopage invraisemblable. Mais moi, j'aime bien le côté méchant de James Bond, vous voyez. Un peu, waouh, baroque, si vous voulez. Mais j'aime bien parce que j'ai la certitude que tous ces personnages-là n'ont pas plus d'existence que Casimir dans Les Deux Enfants ou que Peppa Pig, vous voyez. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on venait à réaliser que tout ça, c'était pour de vrai, je ne serai donc là, à ce moment-là, devant vous, plus un critique ou un conférencier. Je deviendrai une espèce d'humoriste. Alors déjà, oui. Mais en plus de ça, un humoriste censé faire de l'humour là-dessus. Et en plus, si on pousse à la logique, un humoriste qui s'amuse à dire en fait on imaginerait que tout ça ce serait pour de faux, ce serait de la fiction, ce qui m'amènerait à dire des trucs du genre et dis donc waouh, heureusement que tout ça c'est pas pour de vrai, ouïouïouï, ou alors des trucs du genre Benjamin Netanyahou, on dirait pas un méchant de James Bond, j'ai pas raison, Et en espérant que ça vous fasse rire, sachant que dans le public, il y aurait du coup sans doute des gens concernés de près par ces événements. Ce ne seraient pas des productions, ce seraient des événements, c'est-à-dire des gens dans le public qui auraient de la famille en Israël, peut-être victimes des attentats du Hamas, ou de la famille à Gaza, sous les bombes, morts ou vivants. Et moi, je devrais comme ça faire de l'humour devant ces gens-là. Je pense que ça me provoquerait une espèce de crise existentielle. Voilà. Je me mettrais à me dire, ouais, ben, qui je suis en fait, quel droit j'ai, moi, petit blanc qui dans le tas, dans mon confort petit bourgeois, là, comme ça, à faire de l'humour là-dessus. J'en reviendrai petit à petit forcément à questionner toute l'entreprise, c'est-à-dire les 5 années de spectacles, ce ne seraient pas des conférences, ce seraient des spectacles d'humour, dans lesquels je pose un regard caustique et décalé qui fait vraiment réfléchir quand on y pense sur les tragédies du monde, sur le réchauffement climatique, sur l'inflation, sur la mort de Matthew Perry. Je trouverais ça insoutenable. Évidemment, je finirais par me dire non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer éthiquement, moralement, philosophiquement, ce n'est pas soutenable de continuer à faire ce que je fais. Je ne pourrais plus finalement me dire que je ne peux plus que traiter des événements comme celui-ci, tiens voilà, paf, 21 octobre 2023, Rhône, ils font une andouillette géante et battent un record insolite. Un record pour le moins insolite a été battu dans le Rhône par l'emblématique charcuterie lyonnaise Bobos. Une andouillette de 16,80 m a été réalisée. Voilà. Ça, je pourrais dire oui, regardez, ne dirait-on pas une espèce de haïku culinaire avec ces trois phrases parfaitement équilibrées, et ce serait rigolo. C'est rigolo, parce que le mot andouillette, déjà, c'est rigolo. Charcuterie Bobos, c'est rigolo. Et imaginez qu'un scénariste ait eu l'idée d'avoir une charcuterie du nom de Bobos qui réaliserait une andouillette de 16,80 m sous contrôle huissier, c'est rigolo aussi. Ça n'offenserait personne, même pas les végétariens, parce que c'est pas parce que la plus longue andouillette du monde fait 7,80 qu'on est forcément obligé d'y goûter. Voyez, je pourrais pas non plus ne traiter que ces sujets-là. Pourquoi? Parce que ça ferait 5 ans que des spectatrices et des spectateurs, je sais pas qui seraient ces gens, mais viendraient régulièrement comme ça parce qu'ils trouveraient que ce que je fais, c'est rigolo. Ça fait drôlement réfléchir. Et que du coup, ça les intéresserait particulièrement parce que je m'attaquerais à des sujets pas faciles, tels que ce sujet-là, tout ça. Et du coup, je me retrouverais contraint à continuer quelque part. Déjà par nécessité économique, parce que dans ce monde-là, je serais quoi? Je serais un intermittent du spectacle, donc j'aurais besoin de le cacher pour continuer à subsister, je n'aurais pas le choix. Nécessité existentielle, parce qu'en tant que comédien, j'aurais besoin qu'on me regarde pour avoir l'impression d'exister. Et donc, je continuerai comme ça, comme un funambule sur du fil barbelé, vous voyez. En attendant la mauvaise blague de trop, qu'on appelle dans le métier une Guillaume Meurice, qui me ferait chuter, mettrait fin à ma carrière, mettrait fin aussi quelque part à mon calvaire, possiblement à ma vie. Donc ouf, c'est pour de faux, déjà. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, si c'est pour de faux, pourquoi tu renacles? Pourquoi tu traînes des pieds? Pourquoi tu procrastines? Pourquoi tu n'as pas l'air de trépigner d'impatience? L'idée d'aborder cet arc narratif-là, cette production-là, qui, comme tu l'as dit toi-même, est quand même la production la plus intéressante du moment, la plus importante du moment. Tu ne peux pas ne pas en parler, de la même manière qu'une revue de cinéma ne peut pas ne pas parler du dernier Star Wars. Même les cahiers de Kinner parlent de Star Wars aujourd'hui. Tu ne prends pas beaucoup de risques, c'est de la fiction. Donc au pire, c'est une critique à chaud. Donc au pire du pire, tu vas juste choquer les fans de Star Wars. Les gens qui disent ça, de toute évidence, ne connaissent pas les fans de Star Wars. À moins de maîtriser parfaitement le sujet, on ne parle pas de Star Wars devant un fan de Star Wars. Tout au plus, on dit à un fan de Star Wars, j'aime bien Star Wars. Seulement s'il vous demande votre avis. De la même manière qu'on ne demande pas, qu'on ne parle pas de Batman à un fan de Batman, de Proust à un fan de Proust. Cette ligne de conduite m'a garanti jusqu'ici une vie tranquille et agréable. Parce qu'il en va, de cet incroyable arc narratif, mais même au sens plus large, c'est-à-dire pas seulement depuis le 7 octobre, l'immense arc narratif Israël-Palestine, il en va comme de l'œuvre de Marcel Proust. Hein. C'est-à-dire, on sait tous que ça existe, on sait tous que c'est monumental. Qu'il faut avoir lu Proust. Que la lecture de Marcel Proust modifie votre perception du réel, que ça vaut la peine. Pour autant, on ne l'a pas lu. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1% de la population française qui a lu réellement La Recherche du Temps Perdu. 10%, et je suis gentil, qui en a lu plus de 20 ou 30 pages. Et 89% du coup de la population qui en connaît quelques lignes au max qui lui ont été imposées pendant le lycée. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, putain, tu m'étonnes. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. On vit très bien sans lire Proust. On a le droit de lire Proust, on a le droit de ne pas lire Proust. Il y a à peu près zéro chance pour qu'à un moment donné, votre survie dépende de votre maîtrise de La Recherche du Temps Perdu. D'accord ? Sauf si vous êtes critique littéraire et qu'un jour, paf, sort un nouveau tome inédit, le tome 10 de La Recherche du Temps Perdu, et que vous avez 3 jours pour en faire la critique. Voyez ? Là, effectivement, moi, j'ai le sentiment un petit peu d'être un critique littéraire. Le dernier Proust vient de sortir, tout le monde l'a acheté, quasiment personne n'a lu, mais tout le monde a un avis. Et dans le public devant moi, il y a des gens qui veulent avoir mon avis, particulièrement des gens qui l'ont lu et qui connaissent très bien. Et moi, je suis là, et j'ai pas révisé. D'accord ? Sauf que, là, réellement, Israël-Palestine, c'est pas juste Proust. Hein. C'est Proust, James Joyce, le Marquis de Sade, Virginia Woolf, Louis Ferdinand Céline, Salo et les 120 journées de Sodome, tout ça en livre de poche sans image, sur des toutes petites pages comme ça, mais gigantesques, avec des pages coupantes et de l'encre qui colle aux doigts comme ça, posé en équilibre sur une mine antipersonnelle, laquelle est posée sur un matelas gonflable qui flotte précairement dans une piscine remplie d'acide sulfurique, infestée de requins affamés qui tirent des rayons laser. C'est une œuvre qu'on aborde avec le plus grand respect, la plus grande précaution, vraiment si on est sûr de vouloir s'y mettre. Vous voyez ? J'ai essayé. Je me suis dit, allez, ok, ne recule pas devant l'obstacle, on y va, hop, c'est parti, paf, bim, bam, boum, Israël-Palestine. Premier truc, on ne peut pas comprendre le récit si on n'a pas la carte sous les yeux. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent de l'Heroic Fantasy, Le Seigneur des Anneaux, etc. On sait toutes et tous que si à la première page il y a une carte, on est dans la merde. Donc, on a. Alors, c'est dans votre sens à vous, donc l'Est pour vous, c'est l'Ouest pour moi. Donc là, vous avez Israël, ok, jusque-là ça va. À l'ouest d'Israël, la Méditerranée, au sud, l'Égypte, très bien. Donc la Palestine, du coup, c'est quoi ? La Palestine, c'est cette tâche-là au nord d'Israël qu'on appelle la Cisjordanie, complètement gobé, englouti, englobé dans Israël. Quelques petites tâches comme ça, en fait, ça c'est ce qu'on appelle les colonies, c'est-à-dire les territoires occupés par des Israéliens qui viennent s'installer là au mépris du droit international, mais avec la bénédiction du gouvernement et particulièrement d'Itamar Ben-Gvir qui leur distribue des armes pour ce faire. Là, Vous avez donc la bande de Gaza, qui est cette espèce de petite bande de 41 km de long sur 12 à 6 km de large, comme ça, coincée entre la Méditerranée, l'Égypte et Israël, pas comme ça. Autour de la bande de Gaza, vous avez plein de checkpoints, voilà, et vous savez, à un moment donné, vous comprenez assez vite que la bande de Gaza a été mise sous blocus par le gouvernement israélien depuis 2007, et qu'en fait, le gouvernement israélien contrôle notamment le nombre de camions de nourriture qui peut pénétrer sur le territoire, a calculé qu'il fallait à peu près maximum 131 camions par jour pour procurer à la population gazaoui une ration quotidienne équivalent à 2279 calories par jour par personne, c'est-à-dire le nombre de calories nécessaires pour ne pas mourir de faim. Là, on se dit, ok, première approche, première entrée dans le récit, on se dit, ouais, quand même, on a une petite idée, quand même, là, il y a quand même clairement un oppresseur et un opprimé, d'accord. Sauf que dire ça, ce n'est pas tenir compte du fait que la bande de Gaza est occupée, pardon, est administrée depuis plusieurs années, 20 années au moins, par le Hamas, qui est une organisation reconnue comme terroriste par l'Union Européenne et dont un des hobbies préférés est de tirer des missiles sur Israël. Oui, mais dire ça, ce n'est pas tenir compte du fait que quand même la Cisjordanie est occupée. Et puis les manifestations pacifistes organisées par des Palestiniens réprimés dans le sang par la police israélienne. Oui, mais ça, ça ne tient pas compte du fait que le Hamas régulièrement organise des attentats terroristes islamistes sur Israël. Oui, mais bon, là, si on dit ça, ça ne tient pas compte du fait que, oui, bah quand même, rappelez-vous, l'opération plomb durci, oui, mais l'attentat de Munich en 72, oui, mais la guerre de 6 jours, oui, mais la guerre du Kippour. Enfin, vous comprenez que si on commence à remonter la chaîne de causalité, on n'a jamais fini. Chaque événement a une version, une contre-version, une contre-contre-version. Ça demande du temps, ça demande vraiment d'être penché sur le sujet, de le lire à tête reposée. Le seul truc, effectivement, qu'on comprend assez vite, c'est qu'il se passe quand même un truc autour de 1948. Ok, 1948, la Nakba, la catastrophe en arabe, c'est-à-dire l'exode de 700 000 Palestiniens suite à la création par la communauté internationale de l'État d'Israël. Sauf que ça, pareil, c'est pas suffisant. Faut tenir en compte le fait que la communauté internationale a créé l'État d'Israël pour offrir un havre de paix et de sécurité au peuple juif qui, pour sa part, sort tout juste de la Shoah, la catastrophe en hébreu, la catastrophe en arabe. C'est quand même bien foutu cette histoire, qui est grosso modo le plus gros génocide de l'histoire contemporaine. Génocide, c'est bon, maintenant, opération de destruction systématique et industrielle du peuple juif, et ce qui arrive comme une espèce de climax comme ça, terrible et terrifiant, à l'immense arc narratif d'espèce d'épopée élégiaque des mésaventures du peuple juif qui consistent en une succession de siècles et de millénaires de récits de persécution, d'oppression, d'ostracisation et d'errance qu'on peut faire remonter à peu près à 586 avant Jésus-Christ, début de la diaspora déclenchée par la destruction du royaume de Judée et la destruction du temple de Salomon par les armées babyloniennes de Nabucodonosor II. Il y a même des critiques qui font remonter ça à avant. Mais même cet arc narratif-là et plein d'autres aussi. Mais là, les critiques ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent, ouais, il y en a qui disent c'est de l'actualité, d'autres qui disent c'est de la poésie, d'autres qui disent c'est de la littérature et tout ça, machin. Et vraiment, ça remonte à bien, bien avant. J'aurais dû dézoomer, c'est vraiment tout. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des cieux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Ouais, donc il y a des critiques qui disent que c'est à peu près là que ça a commencé à merder. Au moment où Dieu a allumé la lumière, là, pif, paf. Bah, voyez, je pense que vous avez un aperçu de mon problème, c'est-à-dire que vraiment, c'est trop gigantesque. Là, pour que moi, j'ai la prétention d'en faire la même analyse que d'habitude. Je ne suis un spectateur français, je ne suis pas un spectateur israélien, je ne suis pas un spectateur palestinien. Au bout d'un moment, peut-être aussi, le plus grand hommage qu'on puisse faire, je vais dézoomer pour le coup, le plus grand hommage qu'on puisse faire à une œuvre de cette ampleur-là, de cette puissance-là, de cette richesse-là, c'est d'admettre qu'on n'a pas la compétence pour l'aborder clairement, pleinement, justement. En revanche, ce en quoi je me sens compétent, ça va être plutôt d'aborder, en réponse à cette production israélo-palestinienne, le travail des productions françaises. Ce qui est hyper intéressant, c'est que je me suis rendu compte que, bah, vous voyez, moi je vous parlais par exemple de mon sentiment d'incompétence par rapport à cette œuvre-là, je me rends compte que les équipes de production françaises ne sont pas beaucoup plus compétentes que moi sur le sujet. Que, ben, un peu comme moi, si vous voulez, elles non plus, elles n'avaient pas lu Proust. Elles se disaient, ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, franchement, ça a l'air super intéressant, on a dit vachement bien. Mais j'ai pas le temps en ce moment. On travaille avec les costumiers, on est en train de développer un nouveau le pantalon islamique que Gabriel Attal pourrait faire interdire à l'école. Voilà, donc j'ai vraiment pas le temps. Tout cela, malgré tout, c'était pas prévu. Et bam, 7 octobre, attaque du Hamas, merde. Comment on fait? Voilà. Bon, bah là, forcément, réunion de production un petit peu partout en catastrophe. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'y connaît un petit peu? Ouais, moi j'ai déjà pris de la MDMA à Tel Aviv, ça va pas suffire. Ça va pas suffire du tout. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps de faire le retard, on va pas pouvoir écrire des dialogues équilibrés, tout ça. On va faire des impros. Petite astuce pour des metteurs en scène, des réalisateurs, des scénaristes qui n'ont pas trop travaillé, tout ça, qui ne savent pas trop quoi dire. On rassemble les comédiens, les comédiennes, on leur dit écoutez, j'ai envie d'expérimenter une autre façon de travailler. J'ai pas envie que ce soit vertical, comme à chaque fois. J'ai envie aussi de vous laisser la possibilité. Voilà. On va partir, on appelle ça écriture de plateau au théâtre. Voilà. Allez-y, écoutez. Rendez-vous dans 3 heures en tenue de training, pour que vous soyez à l'aise, d'accord? Et voici une bibliographie, voilà, vous avez 3 heures pour vous imprégner de ça, vraiment, il n'y a pas de pression, à tout à l'heure. Et 3 heures plus tard, bah voilà, tous les comédiens, les comédiennes en tenue de training, l'équipe de prod en face, costumiers, dialoguistes, scénaristes, etc., etc., etc. Le principe, c'est grosso modo, bah, la prod donne une proposition et les comédiens s'emparent de la proposition et proposent en retour. Donc voilà, surtout... Là, pour l'instant, les premières impros, le but, c'est de se connecter les uns aux autres, d'accord? N'hésitez pas à faire des cœurs, voyez, à vraiment travailler ensemble, développer ensemble, et surtout, 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 réfléchissez pas trop, ça part pas de là, ça part de là. Bon, on part sur du super simple, ok? 7 octobre, attaque du Hamas, donc la constitution d'un magnifique cœur d'indignation collective, évidemment, condamnation unanime, c'est du terrorisme, c'est un crime contre l'humanité, c'est insupportable. Ok, très bien, ça marche, ils s'écoutent, voilà, c'est à peu près logique, il n'y a pas d'aberration dans les propositions, super. Ok, deuxième jour, contre-attaque d'Israël, bam, soutien inconditionnel à Israël, il faut récupérer les otages, la barbarie ne passera pas. Ok, super, ça se passe super bien. Ok, maintenant, on va ajouter un peu de difficulté, au bout de quelques jours, on découvre que le nombre de victimes civiles gazaouis excède très largement le nombre de victimes israéliennes. On approche pas loin des 10 000. Paf, là le cœur se scinde en deux. Tac, on a un cœur là qui fait, qui commence à faire. Alors bon, alors voilà. Travail de police sonore à base de grommelots d'onomatopée, très intéressant. On l'appelle le cœur des embêtés. En face, on a le cœur des entêtés. C'est-à-dire ceux qui disent oui, soutien inconditionnel à Israël, le retour des otages compte avant tout. Et de ce petit cœur commence à émerger trois personnages portés par trois acteurs qu'on appelle les coryphées, c'est-à-dire les chefs de cœur qui mènent un petit peu la danse comme ça, interprétés par les acteurs qui interprètent les éditorialistes Caroline Fourest, Raphaël Coven, Céline Pina, qui partent dans une digression sur l'étude comparative de la pondération des victimes en fonction de la condition du massacre. Donc un petit peu grosso modo, oui, on ne peut pas mettre un signe égal entre toutes les victimes. Une victime du terrorisme, c'est pas la même chose qu'une victime d'une guerre juste, victime collatérale d'une guerre juste menée par l'armée la plus morale du monde. Tout à fait d'accord, chers collègues, tout à fait d'accord. La mort d'un enfant est toujours une tragédie. Mais un enfant israélien massacré par un combattant du Hamas mourra avec le sentiment que c'est à lui qu'on en veut, que cette haine est dirigée contre lui, contre son identité, contre son essence, alors qu'un enfant gazaoui pulvérisé par une bombe ne mourra pas avec le sentiment que l'humanité a trahi tout ce qu'il était en droit d'espérer d'elle. Grosso modo, dans tous les cas, c'est terrible. Mais là, au moins, il se dira, bon, bah, c'est pas contre moi. Il mourra moins vexé, d'accord? Arrive Raphaël Enthoven, c'est impossible, je ne suis pas d'accord, cher collègue, il est odieux et innommable de faire une hiérarchie entre les victimes. En revanche, il est indispensable de faire une hiérarchie entre les bourreaux. Mais où voulez-vous en venir? Je sais pas trop. Vous voyez ? Jolie proposition, lisible, très clair, ok, on va un peu corser le jeu. Donc jusque-là, on était sur les propositions israélo-palestiniennes, maintenant ça va être la France qui va faire ses propres propositions. Là, il y a un petit binôme qui s'entend super bien de décorateur et un décorateur et une scénariste qui arrivent en disant, nous on a une idée, on va dire 31 octobre, dans les 10e et 14e arrondissements de Paris, on découvre 250 étoiles juives taguées sur les murs. Ok, super, deal, paf, on balance, blam, là le cœur se reconstitue. Cœur d'indignation collective, bien logique évidemment, oui, l'antisémitisme ne passera pas, tout ça, ça puise son carburant comme ça dans la mémoire du pire massacre du XXe siècle, tout de même, solidarité sans faille avec nos compatriotes juifs, car il est encore fécond le ventre d'où surgit la bête immonde, très bien, logique parfaite, mais là, paf, plop, 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 il y a un petit cœur qui commence à en sortir, qui se constitue un petit peu de manière autonome, qui commence à faire, oui, c'est insupportable, cet antisémitisme chez les musulmans, et là, il y a des solos. Commence à émerger. Voilà. Porté par des acteurs plus ou moins connus, l'acteur notamment qui joue le journaliste Pascal Perry de LCI, qui part dans une digression assez intéressante. Oui, l'antisémitisme n'est plus le même que dans les années 60-70. Aujourd'hui, ne pourrait-on pas parler d'antisémitisme couscous? Ah, tiens. Révélation aussi. Révélation d'un acteur qu'on connaissait un petit peu, mais là qui commence à prendre de l'ampleur. L'acteur qui interprète le député Les Républicains des Français à l'étranger, Meir Habib. L'antisémitisme, c'est vraiment l'aphrodisiaque des masses arabes. Fallait que ça sorte, pas hein. Et bien sûr, un acteur qui ne nous aura jamais déçus, c'est l'acteur qui interprète Gérald Darmanin. Avec toujours cette espèce de drôle de syntaxe, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré du personnage de Nicolas Sarkozy, parce que c'est des phrases qui sont jamais correctes grammaticalement, mais dont ont quand même le sens. L'antisémitisme est un poison, okay. Mais c'est regrettable que ce soit dans une forme d'ultra-gauche et d'islam radical que se rejoignent la haine du juif. Okay. Et d'ailleurs, ne pourrait-on pas dire que la haine du juif et la haine du flic, c'est un peu la même chose? Alors, là, à ce moment-là, la prod était un peu interloquée, quoi. C'est le jeu, hein, l'écriture de plateau, ça développe, des fois on perd un petit peu la maîtrise, ça part un peu en roulis, mais quand même, là, ils ont appelé le duo là, de décorateurs et de scénaristes. Vous aviez parlé de musulmans ou pas? Bah non, pas du tout, on comprend pas là en fait. En fait, l'idée c'était que dans 3 jours, on faisait un espèce de twist, on révélait qui étaient les gens qui avaient tagué les étoiles, tu vois. Et on avait imaginé que ce serait des Moldaves. Qui feraient ça sur commande d'un homme d'affaires russe qui a interrogé à ce sujet, déclarait qu'en fait c'était un geste de soutien à l'État d'Israël, parce qu'en fait, c'est des étoiles bleues sur fond blanc comme le drapeau d'Israël. Alors après, évidemment, bien sûr. Là où c'était intéressant pour nous, c'était que vu que c'est un homme d'affaires russe, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment du soutien ou est-ce que c'est plutôt un acte de déstabilisation pour foutre le bordel et tout ça, machin. Ça trouve compliqué votre proposition. Et je la trouve pas de très bon goût en fait. Non mais on est d'accord, autant pour nous. Et quoi, ok, bah on les arrête. Stop! Stop, stop, stop! C'est des Moldaves! Avec des Russes! Ça n'arrive pas. Bah, du coup, bah voilà, ils n'ont pas réussi à arrêter l'improvisation qui a continué comme ça. Oui, oui, c'est pas parce que là c'est des Moldaves que d'habitude c'est pas des musulmans! En mode un petit peu, je suis pas raciste, j'ai un très bon ami musulman, qu'est-ce qu'il est antisémite? Ouais, ça c'est vraiment. C'est vraiment, voilà, typique aussi de l'enflammement aussi de l'improvisation, qui est aussi très intéressant d'acteurs qui d'un coup partent là-dedans, quoi, en roue libre. Ça n'a pas été le cas de tous les acteurs, très clairement. Il y a des acteurs, des actrices dont on a senti qu'ils avaient du mal à rejoindre l'improvisation, je pense particulièrement aux acteurs qui interprètent les membres de la France Insoumise. C'est dur de voir des acteurs en souffrance, c'est pas ça. Galérer comme ça. Alors pour plein de raisons, c'est-à-dire que l'acteur qui joue Jean-Luc Mélenchon, on sait qu'il aime pas les chœurs, lui veut faire des solos. Alors c'est comme une coryphée. Après il y a aussi les autres, hein, Daniel Obono, etc. Oui, c'est pas du terrorisme, forcément. Ne pourrait-on pas parler de crimes contre l'humanité? C'est intéressant, mais là, on sent qu'ils ont improvisé avec la tête et pas avec la... Voilà. Il n'y a que réellement, encore une fois, il faut que ça parte de là pour créer des trucs collectifs. Là, vraiment, ils n'ont pas réussi à créer des propositions qui ont pris. Ils étaient en contre en permanence. Voilà. À l'inverse, d'autres acteurs, d'autres actrices qui se sont réellement épanouis dans l'exercice. Hein. Je pense particulièrement aux acteurs, aux actrices qui interprètent les membres du Rassemblement National, et particulièrement l'actrice qui joue Marine Le Pen. Quel parcours! Dès le début, elle a chopé le truc, elle s'est éclatée direct. C'est-à-dire que oui, le début, vous savez, 7 octobre, le cœur d'indignation du début, là, le cœur facile, tout ça, machin, c'est du terrorisme, c'est innommable, c'est ignoble, c'est un crime contre l'humanité, c'est un massacre. Elle, paf, d'un coup, illumination, elle s'approche impériale. C'est un pogrom. Un pogrom, acte de violence collective contre des juifs. Là, t'as tous les acteurs qui étaient dégoûtés. Pile le bon mot. Mais comment elle le connaît, ce mot-là? Elle le connaît. À partir de là, vraiment, elle a suivi un développement du personnage, développement du jeu, d'autant plus agréable à regarder que c'était un vrai contre-emploi, quoi. Vous savez, le contre-emploi, c'est au cinéma ou au théâtre, quand on prend un acteur ou une actrice et qu'on lui fait interpréter quelque chose de totalement différent d'habitude. Vous savez, c'est le jeune premier qu'on va faire jouer un méchant dans un film d'horreur ou je sais pas quoi. Et là, effectivement, Marine Le Pen, bam, championne de l'antisémitisme. On sentait que ça lui faisait des sensations qu'elle connaissait pas. Et ça a contaminé un petit peu ses collègues, hein, notamment l'acteur qui joue Jordan Bardella, le président du parti, qui attend. Moi aussi je me suis. Le Rassemblement National est sans doute le meilleur bouclier pour tous les juifs de France. On sent bien que, évidemment, ça pose plein de questions sur le plan purement dramaturgique en termes de cohérence et de vraisemblance. C'est aussi ça, l'improvisation, l'écriture de Plateau, c'est que par moments, on dévie un petit peu. Particulièrement, je pense au cas de l'acteur qui joue Jean-Philippe Tanguy, un autre député de l'Assemblée nationale, qui s'écrit comme ça au micro de BFM TV, le GUD est l'ennemi historique du Rassemblement National. Là, pour celles et ceux qui ne savent pas, le GUD, c'est un groupe qui a été inventé dans les années 60-70. À l'époque, c'était aux États-Unis, c'était la mode des super-héros, vous savez, les Marvel, les Avengers, tout ça. Il y a un scénariste français qui s'est dit, bah tiens, je vais faire pareil en France. Un petit groupe comme ça, de super-héros sans super-pouvoir, de jeunes gens rassemblés par une passion commune pour la haine du juif, vous voyez, une espèce de club des 5 antisémites, pour un public très très niche, très très ciblé, si vous voulez. Qui a eu un petit succès comme ça à travers le temps. Et en fait, les scénaristes ont prévu des crossovers, c'est-à-dire des rencontres entre différents personnages, notamment un crossover entre Marine Le Pen et le GUD, c'est-à-dire qu'ils avaient imaginé dans la backstory de Marine Le Pen qu'elle rencontrerait quelques membres sur les bancs de la fac de droit à Assas, qu'elle rencontrerait à Assas Frédéric Chatillon, qui en serait le président pendant quelques années ensuite, Axel Lousteau, qui en était déjà un membre éminent à l'époque, qui deviendrait ami, qui ferait campagne pour le Front National du Papa dans les années 90, puis qui les accompagnerait son ascension à elle, à la tête du parti, qui deviendrait ensuite Rassemblement National avec eux autour. Pendant ce temps, il créerait des sociétés de sécurité, d'imprimerie, de communication qui agiraient comme prestataires pour le Rassemblement National. Et même Axel Lousteau serait carrément trésorier du micro-parti JAL, c'est-à-dire l'association chargée du financement de la campagne électorale de Marine jusqu'en 2022. Donc, quand l'acteur qui joue Jean-Philippe Tanguy dit « Le GUD est l'ennemi historique du Rassemblement National », on sent qu'il s'est laissé un petit peu emporter par le feu de l'impro. Après, c'est pas grave. Enfin, ça joue, quoi. Et c'est vraiment un plaisir qui a été absolument communicatif, jubilatoire, qui a culminé, évidemment, lors de la fameuse manifestation du 12 novembre, la fameuse marche contre l'antisémitisme. Et là, on les voyait tous et toutes marcher en disant « Je sais pas ce que je ressens, je sais pas ce que j'éprouve. Oh, c'est fou. » J'avais l'impression de voir des gens qui faisaient le Dry January. des gens, Dry January, c'est après les fêtes, du 1er au 31 janvier, on arrête de boire de l'alcool. Plus une goutte d'alcool pendant un mois. Et il y a plein de gens parmi ceux qui font le Dry January qui vous bassinent. Tout le monde en disant, écoute, tu sais quoi, je crois que ça ne manque pas du tout. Le soir, je bois des jus de fruits, des smoothies, des petites soupes. Je danse jusqu'au bout de la nuit, j'ai une patate pas possible, je dors 6 heures, je pète le feu, je récupère vachement plus vite, je suis plus angoissé, je suis quasiment plus angoissé du tout, j'ai une plus belle peau, non vraiment, je pense que je pourrais totalement arrêter de boire de l'alcool. Je pourrais pas arrêter l'alcool, mais je pourrais arrêter l'alcool. Donc là voilà, c'est... Je pense que je pourrais arrêter l'antisémitisme. Je pourrais pas arrêter de taper sur les Arabes, mais l'antisémitisme. Alors, évidemment. Évidemment que le succès du Dry January est aussi lié au fait qu'on sait très bien qu'à un moment donné arrivera le 1er février. Et qu'on va pouvoir recommencer à se taper des caisses, évidemment. Mais c'est pas grave. Ça jubile, ça kiffe, ça joue, c'est joyeux, c'est généreux. Ça foisonne. Et même, vous voyez, c'est fou. Je pourrais encore en parler pendant des heures, mais c'est ça aussi l'écriture de plateau, les talents de proposition dans tous les sens. J'ai pas parlé, par exemple, du travail des dialoguistes d'Emmanuel Macron. Là, vous avez vu, maintenant, c'est... ils ont délégué à ChatGPT ces dialogues d'Emmanuel Macron. Et puis, ça écrase aussi toutes les propositions derrière. Celles qui n'étaient pas prévues en intro, celles qui étaient écrites laborieusement, consciencieusement par les scénaristes. Et c'est dommage, parce que là, pour le coup, effectivement, je ne peux pas du tout le temps de les traiter, alors qu'il y a quand même, bon, bah. Le procès d'Éric Dupond-Moretti, quand même. Un ministre de la Justice qui passe devant la justice, et rien que pour la rime, ça aurait mérité que j'y passe un petit peu de temps. Ouais. Les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, une espèce de scène post-générique pour l'été de l'enfer épisode 2, comme pour vous dire, vous pensiez que c'était fini, mais non, le réchauffement climatique bientôt sur vos écrans. Ouais. L'avènement d'un tout nouveau personnage, sud-américain, argentin, Javier Grey. Il y a déjà plein de fans ici, j'ai remarqué. Le nouveau président qui fait campagne avec une tronçonneuse pour expliquer qu'il va couper dans la dépense publique, qui veut interdire l'avortement, autoriser le trafic d'organes, qui ne supporte pas la mort de son chien, du coup il le fait cloner en 6 exemplaires. Ouais, vraiment, un mix comme ça entre Donald Trump, Eric Zemmour, Victor Orban, Jair Bolsonaro, mixé avec un sac d'amphétamine. Ouais, qui vient s'ajouter comme ça à la grande liste des personnages avec perruque et pattes sur moi, vous savez, comme ça. Ça foisonne, ça bouillonne, ça propose, ça vit, c'est joyeux. Ça... Moi, vraiment, ça me transporte le cœur, ça me donne envie d'y participer. J'avais envie des improvisations, moi j'avais envie d'être avec eux. D'improviser avec, c'est ça aussi l'improvisation réussie, c'est quand on a envie d'improviser avec les gens. C'est hyper bien, c'est hyper jubilatoire. Mephisto ne pense qu'à ça. Mephisto, c'est mon chat. Voilà, il y a 2 ans, Mephisto a essayé de se présenter à la présidentielle. Il s'est présenté à la présidentielle. Il n'a pas eu ses signatures, mais c'est pas grave. L'an dernier, il voulait devenir éditorialiste pour se faire inviter chez Sigle Hanouna pour justement rejoindre le grand récit comme ça. Il a commencé à écrire un bouquin. Il n'a pas réussi à le finir parce qu'il est dyslexique et narcoleptique. Les touches du clavier sont trop petites pour ses grosses pattes.
Même audio, une mémoire sonore.